Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Yalla, telle était l'expression favorite de celle qui fut pendant longtemps la personnalité préférée des Français. Sœur Emmanuelle, décédée en 2008 dans sa 100e année, s'est rendue célèbre en se dévouant auprès des 10 chiffonniers du Caire. Ces milliers de personnes servant d'éboueurs à cette mégalopole et vivant souvent dans des conditions indignes. À ses côtés, pendant des années, dans l'ombre de cette personnalité charismatique, se trouvait notamment le docteur Adel Ghali, un médecin égyptien qui fut l'un de ses proches collaborateurs donc et qui témoigne aujourd'hui de ce compagnonnage extraordinaire. L'appel du royaume, tel est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec notre invité, auteur d'un ouvrage du même nom, comme bien souvent, Adel Ghali. Vous êtes médecin, égyptien et auteur donc d'un livre intitulé « L'appel du royaume », sur les pas de Sœur Emmanuelle, ma vie auprès des chiffonniers du Caire, paru aux éditions Arthège. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes avec nous, il faut le dire, depuis les studios de Radio Notre-Dame. Vous parlez très bien français. On aurait préféré vous avoir de visu, mais ça s'est organisé comme ça. Je le dis pour que les auditeurs ne soient pas surpris si parfois il y a un petit peu de décalage. Ça fait beaucoup de défis pour vous, même si votre français est courant. Et en tout cas, merci de nous accorder ce temps. Alors, on est bien content, on va dire 13 ans après sa mort maintenant, d'avoir à nouveau une personnalité qui, à l'occasion d'un passage en France et de ce livre, nous parle de cette sœur qui, chez nous, a longtemps vraiment été une star. Alors aujourd'hui, j'ai lu des sondages. Quand on interroge les plus jeunes générations, Sœur Emmanuelle, pour eux, ça leur évoque pas grand-chose. Mais ça a été longtemps la grande figure de la charité en France. Est-ce que c'était le cas en Égypte aussi? Est-ce que Sœur Emmanuelle était très populaire? C'était une des personnalités préférées des Égyptiens?
Premièrement, je suis très heureux d'être ici et je suis aussi heureux de parler sur Sœur Emmanuelle, que grâce au Seigneur et grâce à la Vierge et que j'ai eu à la providence divine, que j'ai eu la chance de rencontrer Sœur Emmanuelle et de travailler avec elle. Je peux vous dire que vraiment, Sœur Emmanuelle était le cadeau d'Emmanuel pour les chiffonniers du Caire. Et vraiment, maintenant, j'aime dire la bienheureuse Sœur Emmanuelle.
Et alors, docteur Adel Ghali, est-ce que c'était le cas aussi pour tous les Égyptiens? Est-ce que c'était une des personnalités les plus connues d'Égypte et les plus appréciées ou admirées?
Pour dire la vérité, c'était la personnalité connue par, premièrement, les chiffonniers, mais pas comme en France ici. Elle était très connue en Europe généralement, mais surtout en France et en Belgique et en Autriche, en Allemagne. Mais ce n'était pas la même chose, mais malgré que de temps en temps, il y avait aussi quelques articles dans des grands journaux chez nous, ou dans des magazines, mais pas de cette manière comme chez vous ici.
Alors,
seulement les chiffonniers qui connaissent Sœur Emmanuelle et la population autour de ces endroits.
Alors, on va faire connaissance avec vous, puisque aujourd'hui, on vous rencontre et à travers vous, on rencontre Sœur Emmanuelle. Je redis juste une ou deux choses pour ceux qui, par hasard, n'auraient jamais entendu parler de Sœur Emmanuelle, puis on y reviendra. Sœur Emmanuelle, née Madeleine Cinquin, est née à Bruxelles. Elle est décédée donc en France en 2008. Elle était dans sa 100e année. Elle a souvent été appelée donc la petite sœur des chiffonniers. Les chiffonniers étant donc, on va le découvrir, tous ceux en fait les éboueurs quelque part de cette mégalopole qui est le Caire, qui aujourd'hui compte à vous lire donc plus de 25 millions d'habitants. Elle avait été naturalisée égyptienne en 1991 et elle était donc religieuse de la congrégation de Notre-Dame de Sion. Avant qu'on parle d'elle, on va parler de vous, puisque dans votre livre, vous nous dites qui vous êtes. Vous êtes donc aujourd'hui un médecin égyptien copte, vous avez travaillé pendant 40 ans avec cette femme, mais si on revient au tout début, quand vous racontez-nous un peu d'où vous venez, De quelle famille venez-vous? Vous parlez de votre père et de votre mère. Qu'est-ce que vous pourriez nous décrire de l'Égypte de votre enfance et de votre enfance, docteur Adel Ghali?
Oui, seulement avant de vous raconter tout ça, j'aime dire un petit mot sur Sœur Emmanuelle. Si moi j'admire Sœur Emmanuelle et j'ai admiré Sœur Emmanuelle, c'était à cause de plein de choses. Premièrement, rien pour elle, tout pour les autres. Ça, j'aime dire ça parce que c'est quelque chose de très important. La deuxième chose que j'admire en Sœur Emmanuelle, et je ne peux pas oublier ça du tout, c'était que depuis l'âge de 12 ans jusqu'à qu'elle est partie au ciel à l'âge de 100 ans, comme vous dites, elle va tous les jours à la messe et à la communion. Dans un de ses livres, elle a écrit ce livre quand elle avait l'âge de 93 ans. Elle a dit: je ne rappelle pas que j'ai raté la messe et la communion dans les 80 dernières années, pas plus que 12 fois. Vous voyez, 12 fois sur 80 ans. Qui fait ça maintenant? Et surtout, quand elle était chez les chiffonniers et dans des quartiers un peu loin où l'église est loin, même durant les guerres, durant n'importe quelle situation.
Elle faisait le trajet pour aller à la messe. Mais si ça ne vous embête pas, oui. on parlera de sa personnalité, de son héritage spirituel. Mais si vous sortez de l'ombre à l'occasion de ce livre, quand même, on voit même votre photo sur la couverture, donc je vous ai presque en face de mes yeux. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire donc, de votre famille, de l'ambiance dans laquelle vous avez grandi, rapidement, avant qu'on parle de votre foi?
Simplement, mon père et ma mère, vraiment, ils ont été merveilleux, je peux dire comme ça. Ma mère m'a beaucoup aidé dans mes études parce que ma mère, ses études étaient à l'école américaine, à Atlanta. Cette école, maintenant, est devenue la faculté de médecine à Atlanta. Enfin. Alors c'est grâce à elle qu'elle m'a aidé dans toutes mes études jusqu'à baccalauréat, c'est-à-dire les années secondaires.
Vous en rêviez depuis petit d'être médecin, vous dites dans votre livre. Pouvez-vous nous raconter ça?
Oui, ça c'est vrai parce que à l'école, je me rappelle très bien que deux semaines, il y avait toujours, dans notre école, c'était l'école Sacré-Cœur, l'école des frères, c'est-à-dire. Il y avait des films documentaires, et un de ces films a montré comment est la situation en Afrique, et la misère, Alors, quand j'ai vu ce film, ça a fait m'a beaucoup
beaucoup ému.
Oui.
Ça vous a ému, oui.
Une autre chose, il y avait un programme à la radio il y a un programme pour les tout petits enfants. Ce programme s'appelle Baba Charo. Et moi, j'aime toujours entendre ce programme à la radio.
Alors, ça c'est...
Un de ces programmes, il a raconté... Baba Charo, c'est une personnalité qui... Il a un nom, mais sur le nom de Baba Charo, il parle. Il a raconté l'histoire du docteur Albert Schweitzer, comment il est allé en Afrique et comment il a sauvé des milliers
de vies
des malades.
Une autre personnalité belge d'ailleurs. Alors donc à propos de vos enfances, on sent que vous avez un grand amour pour vos parents. Vous êtes donc destiné pour la médecine. Vous parlez aussi de votre foi. Donc vous êtes égyptien et vous êtes copte. Et votre foi semble-t-il a été ravivée après avoir été moins vive à l'occasion des apparitions de Zeytoun, reconnues donc par votre église. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ces apparitions de Zeytoun, est-ce que vous pouvez nous expliquer? La Vierge est apparue donc pendant plusieurs années dans la banlieue du Caire. Racontez-nous, et est-ce que vous l'avez vue vous-même, la Vierge?
Oui, alors je vais vous raconter. En 1968, le 2 avril, la très sainte Vierge Marie est apparue dans notre église. Moi, j'habite à Zeytoun, pas loin de cette église. Mais dans l'année 1968, j'étais à Alexandrie parce que c'était ma première année d'études de médecine. Et j'ai reçu de mon petit frère, dans ce temps-là, une lettre. Et il a écrit dans cette lettre qu'il a vu la Vierge, que tout le monde a vu la Vierge, que même les voisins ont vu la Vierge, et même les musulmans ont vu la Vierge. Alors quand j'ai reçu cette lettre, c'était pas quelque chose de prévu. Peut-être j'étais un peu étonné, qu'est-ce qu'il raconte mon frère. Alors j'ai pris cette lettre, et imaginez, il avait 10 ans, alors imaginez un enfant de 10 ans, comment il explique, il raconte, il écrit. Alors j'ai pris cette lettre et je suis allé chez mon père de confession. Vraiment, il était un père, un prêtre merveilleux et un saint prêtre.
Alors peut-être, venez-en au moment où vous avez vu la Vierge Marie, vous dites vous-même, elle était donc surnaturelle, lumineuse et douce.
Bien sûr, ça va. Je vais vous dire, malgré que j'ai voulu continuer, que je suis allé chez ce père pour lui demander, j'ai lui montré la lettre et j'attends qu'il va me dire quelque chose, que tout est possible ou il ne faut pas entendre des histoires. Mais je me rappelle très bien qu'est-ce qu'il m'a dit ce prêtre. Il s'appelle le père Bichoy. Kamel, il est aimé par tout le peuple, même pas seulement à Alexandrie. Il m'a dit simplement comme ça, on est complètement sûr qu'un jour, on va voir la Vierge au ciel. Et il n'a pas dit plus que ça.
Excusez-moi, docteur Adel, je vois le temps qui passe. Alors du coup, je suis désolé, mais il faut qu'on parle de beaucoup de choses. Et donc, je veux que vous ayez du temps. Donc vous voyez la Vierge Marie. On peut dire aussi qu'à l'occasion des apparitions de Zeytoun, c'est près d'un million de personnes à vous lire donc, qui ont vu la Vierge, et ce, de toute confession confondue ou de toute religion. Vous rencontrez ensuite donc Sœur Emmanuelle. Vous la rencontrez et on va dire, elle vous tire rapidement par la manche pour la rejoindre. C'était en 1976, elle vous dit « Que fais-tu ?» Alors peut-être ce que j'aimerais, c'est que vous nous racontiez, c'est la première fois qu'elle vous a emmené dans le premier bidonville dans lequel elle était, dans son palais royal, sa fameuse cabane. À quoi ressemblait cette cabane et quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivé dans ce lieu, donc Esgel El Nabal?
Non. Hezbet El Nakhl. Hezbet El Nakhl, ça veut dire la ferme des palmiers ou la palmeraie. Mais pour le moment, il n'y a pas de palmiers à Hezbet El Nakhl.
À quoi ressemblait le palais royal de Sœur Emmanuelle? Et quelle a été votre première impression dans ce bidonville?
Oui. Pour le palais royal, c'était vraiment un palais merveilleux, extraordinaire, très très riche, un palais royal très riche. Mais c'était un palais très riche d'amour et de simplicité, de joie. Quand je viens chez Sœur Emmanuelle dans son palais royal, j'étais toujours heureux parce qu'elle était toujours illuminée, souriante. Enfin, ça, si on parle du palais royal, et c'est une cabane comme toutes les cabanes des chiffonniers. Il contient simplement un lit, une commode, quelques casseroles, la Bible, bien sûr, et une lampe à pétrole, parce que vous savez, chez les chiffonniers, ils n'ont pas ni l'eau dans ce temps-là, ni l'eau, ni l'électricité, ni les égouts, ils n'ont rien. Ils vivent dans les ordures, entourés par les ordures, avec les ordures. Et bien sûr, toutes ces ordures n'appartiennent pas à eux, mais c'est les ordures qui ramassent des citadins du Caire.
Alors, vous avez une expression dans votre livre, vous dites « Le royaume de Sœur Emmanuelle était aux confins du désert et de l'enfer, impensable, tout près de chez moi ». Ça a été un choc pour vous ?
C'est-à-dire, la première fois que je suis allé chez les chiffonniers, chez Sœur Emmanuelle, j'ai pris le train de Zeytoun, maintenant c'est un métro, mais c'est à peu près 10 minutes seulement. Et j'ai marché, comme elle m'a expliqué comment arriver jusqu'à chez elle, j'ai marché à peu près 25 minutes à pied. Et j'arrive, c'est-à-dire c'est à peu près une demi-heure depuis chez moi. Et la première fois que je suis allé, je me rappelle très bien, Sœur Emmanuelle qui marche sur plein d'ordures et de détritus, entourée par des femmes qui portent leurs enfants. Les femmes et les enfants sont heureux, souriants, gais, mais et dans le même temps, sales, bien sûr, parce que tous marchent, et presque tous marchent les pieds nus sur tous ces tas d'ordures. Et Sœur Emmanuelle, elle prend les enfants entre ses bras, elle les embrasse, ça m'a beaucoup impressionné. Et quand je suis rentré, ça c'était la première fois que je suis allé, quand je suis rentré chez moi, et cette nuit, je n'ai pas dormi. C'est-à-dire, j'ai dormi et je n'ai pas dormi, toute la nuit je pense, et toute la nuit je dis, comment cette sœur vit comme ça dans
ce lieu extraordinaire,
ce quartier.
Oui, l'appel du royaume.
Qu'est-ce
que je vais faire, puisqu'elle vous avait lancé cette adresse, que fais-tu, et qu'il fallait lui répondre. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver. Je rappelle le titre de votre livre, L'appel du royaume, paru aux éditions Artege. On vous retrouve dans quelques minutes. Thank you.
Emmanuel Pella.
L'appel du royaume, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec comme invité Adèle Galli, qui est un médecin égyptien de confession copte qui a vécu et travaillé donc pendant près de 40 ans auprès des chiffonniers du Caire et avec Sœur Emmanuelle, et auteur donc d'un ouvrage paru aux éditions Artege du même nom, L'appel du royaume, avec ce sous-titre donc sur les pas de Sœur Emmanuelle, ma vie auprès des chiffonniers du Caire. Alors comme lieu emblématique de votre action, parce que dans votre livre évidemment c'est un livre assez complet hein, où vous parlez de l'Égypte, vous parlez de Sœur Emmanuelle, vous parlez de votre vie. Je me suis arrêté donc sur un passage et un lieu me semble-t-il assez emblématique. C'est donc la colline du Mokattam. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous prononcez ce lieu. Est-ce que vous pouvez commencer par nous le décrire, docteur Adèle Galli, avant qu'on entende ce que vous avez fait avec Sœur Emmanuelle là-bas?
Ça va. Alors, pour le Mokattam directement, la première fois que je suis allé avec Sœur Emmanuelle au Mokattam, parce qu'avant j'étais à Zbetenechl, mais au Mokattam c'était en 1980. Et quand je suis arrivé là pour la première fois avec Sœur Emmanuelle au Mokattam, moi, personnellement, j'ai dit dans mon cœur, ces gens doivent attendre 300 années pour que quelque chose bouge ou change ou améliore. Pourquoi j'ai dit comme ça? J'ai trouvé au Mokattam, dans ce temps-là, il y avait 14 000 chiffonniers, 14 000 personnes. Et tous, ils vivent dans les ordures d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Si vous imaginez que la situation, par exemple, des gens qui vivent dans des cabanes en tôle, la cabane, c'est à peu près 4 mètres fois 4 mètres. Peut-être elle contient un lit, peut-être non. Alors, s'il y a le père, la mère et 5 enfants, et peut-être la grand-mère ou le grand-père, au moins 8 personnes dans une petite cabane, peut-être 4 sur le lit et 5 par terre. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ils vivent dans la poubelle, entourés par la poubelle, avec la poubelle. Et bien sûr, il y a les cochons, il y a des poulets, il y a des qui sortent et qui entrent. Il y a des souris, des rats, tout ce que vous pouvez imaginer.
Alors, vous parlez aussi dans votre livre de la condition sanitaire. Vous dites qu'à ce moment-là, 40% des nouveau-nés mouraient.
Oui. Ça, c'était le gros problème au début. On a découvert qu'au moins 4 sur 10 des nouveau-nés meurt dans les 2 ou 3 premiers mois, et c'était à cause du tétanos néonatorum.
Parce que les mamans accouchaient en fait sur les tas d'ordures, c'est ça?
Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que les mamans, comme vous dites, quand ils font l'accouchement, c'était par terre et dans les cabanes que je viens d'expliquer. Alors, avec vous pouvez imaginer, et les accouchements, c'est avec des sages-femmes par expérience. C'est ça, pour dire la vérité, ces sages-femmes font leur travail avec tout leur cœur. Mais d'après l'expérience et d'après ce qu'ils ont vu, et pour couper le cordon ombilical, ils peuvent utiliser n'importe quoi de par terre, c'est-à-dire un couvercle de boîte de conserve, peut-être un morceau de verre. Et parfois, ils utilisent quelque chose de meilleur, de mieux, c'est un rasoir tout neuf.
Alors, docteur Adèle Galli, donc vous arrivez au Mokattam, et c'est à peu près à ce moment-là, en tout cas après, que Sœur Emmanuelle va vous dire « Tu vas dire bye-bye à ta situation et tu vas travailler ici avec moi pour la plus grande gloire de Dieu. » Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est devenu le Mokattam? Est-ce que vous avez fait, avec Sœur Emmanuelle, vous et d'autres, au long de ces années, en ce lieu particulièrement?
Oui, c'est vrai. J'arrive un jour le matin et avant, dès que je descends de la voiture et Sœur Emmanuelle était là et directement, elle m'a dit, tu dois dire bye bye comme vous êtes, c'est fini, tu dois dire bye bye à ton travail et tu viens ici et on va travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Dès qu'elle m'a dit ça, vous savez, je vais vous raconter exactement qu'est-ce qui s'est passé. La nuit avant, directement, toute la nuit, je pense, parce que dans ce temps-là, et c'était comme ça. Alors,
Docteur Attel-Ghali, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant à quoi ressemble le Mokattam aujourd'hui? Et puis du coup, ce que vous avez fait avec Sœur Emmanuelle là-bas comme travail pendant de nombreuses années avec elle et avec d'autres.
Oui, alors comme je vous ai dit au début, j'ai dit ces gens doivent attendre 300 années, mais et jamais que j'ai imaginé qu'un jour il y aura une maison en dur avec des briques. C'était impossible pour moi d'imaginer comme ça. Mais je peux vous dire que vraiment, grâce au Seigneur, grâce à Sœur Emmanuelle et tout ce qu'elle fait et qu'elle a fait, et grâce aussi à la congrégation des sœurs, les filles de Marie, c'était la première congrégation en Égypte des sœurs mi-contemplatifs actifs.
Mais alors, à quoi ça ressemble, docteur Attel-Ghali, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit si on va au Mokattam? On voit des maisons en dur, c'est ça? On voit...
Oui, c'est ce que je veux dire, que c'est grâce à tous. Et à Monseigneur Athanasius aussi, l'évêque de Beniswif, qui a fondé cette congrégation, que Sœur Emmanuelle a travaillé avec eux. Et grâce à la générosité de tout le monde, que maintenant, il y a vraiment des maisons en dur. Il y a l'eau. L'électricité, les égouts, bien sûr, c'est des longues histoires qui ont et une longue démarche qui c'est merveilleux pour moi. Jamais et il y a des écoles, il y a un hôpital maintenant, il y a tout ce qu'il faut. C'était impossible pour moi au début d'imaginer, mais maintenant tout a changé.
Alors, qu'est-ce que vous y avez fait, vous, docteur Attel-Ghali, là-bas? En quoi a consisté votre action comme médecin?
Bien sûr, comme médecin, il y avait plein de maladies, mais comme vous avez mentionné, par exemple, le plus gros problème au début, c'était ce problème de tétanos neonatorum. Alors, on a pensé comment trouver des solutions pour ça. Et grâce au Seigneur aussi, il nous a envoyés dans ce temps-là, pour ne pas oublier, c'est grâce à un merveilleux médecin de Bordeaux, il s'appelle le docteur Jean-François Castorès, que je ne peux pas l'oublier. Il est venu chez Sœur Emmanuelle au Mokattam et il a proposé d'envoyer des médecins, au début, et Sœur Emmanuelle lui a dit, non, j'ai pas besoin des médecins, j'ai besoin des infirmières. Et parce que le docteur Jean-François Castorès avait commencé une petite organisation à Bordeaux qui s'appelle Médecins pour tous les hommes, comme Médecins pas Médecins sans frontières. Enfin. Alors, elle lui a dit, j'ai besoin des infirmières. Et lui, il nous a envoyé 2 infirmières chaque 2 mois. Et grâce à tous ces infirmières qui sont venues, c'était possible de réaliser ce programme de vaccination contre le tétanos. Alors, en résumé, on a pensé de donner ce vaccin pour les femmes enceintes, puis on a dit pour les femmes entre l'âge de 15 à 45 ans, puis on a trouvé que presque tout le monde dans ce temps-là, il marche les pieds nus. Alors c'était un programme pour tout le monde au Mokattam. Et grâce au Seigneur, maintenant, c'est fini. Ce problème est fini. Bien sûr, à côté, il y avait notre première clinique de luxe. C'était une simple cabane en tôle, comme tout, au début, comme tous les chiffonniers. Et c'était Sœur Emmanuelle elle-même qui a tout arrangé dans cette cabane. Alors, c'était pour les consultations toute la journée, enfin...
Vous avez l'habitude de dire
c'est en résumé.
Vous avez l'habitude de dire que Sœur Emmanuelle a permis, donc on a compris, elle n'était pas toute seule, hein, Sœur Emmanuelle a permis trois miracles en ce lieu et en d'autres. Celui de vaincre les maladies, de construire donc des maisons, mais aussi donc de dissiper le mépris qui pouvait être ceux de nombre d'Égyptiens, si j'ai bien compris, à propos des chiffonniers du Kéré. Donc les maladies, on a entendu, les constructions aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mépris social, c'est-à-dire qu'elle s'est battue aussi pour qu'en Égypte, on regarde les chiffonniers autrement?
Oui, c'est-à-dire, bien sûr, les gens... Même il y a des chiffonniers qui m'ont parfois parlé, ils m'ont dit, un des chiffonniers dit, moi je sens que je suis rien du tout. Et ils sentent vraiment qu'il est méprisé. Parce que les gens regardent aux chiffonniers, ils sont des gens sales et des gens qui ramassent les ordures. Alors, mais vraiment... Grâce à Sœur Emmanuelle, je crois que les gens ont changé leur regard et leur avis et ils ont compris l'importance des chiffonniers parce que sans les chiffonniers qui ramassent toutes ces ordures, ils ramassent à peu près 25 millions de tonnes, 25 000 tonnes d'ordures chaque jour du Caire. Leur présence est très importante et les gens commence à comprendre la valeur de la présence de tous ces chiffonniers. Alors, sans les chiffonniers, le cœur va être une poubelle.
Voilà. Vous rappelez que aussi les chiffonniers ont, on va dire, une incroyable capacité à recycler les déchets, hein, qui pourraient faire envie à toutes les entreprises les plus compétitives et les plus modernes d'aujourd'hui en matière de recyclage, tant leur travail d'une certaine manière est fin, même s'il est bien difficile. On va faire une deuxième pause et puis on va continuer de vous retrouver pour parler de l'héritage spirituel de Sœur Emmanuelle. Et puis on peut dire aussi que c'est SOS Chrétien d'Orient qui vous a invité à faire cette tournée en France. Et vous avez une expression, vous dites que par moment, en dehors du travail de cette magnifique association, donc auprès des chrétiens d'Orient, comme son nom l'indique, il faudrait créer SOS Chrétien d'Occident. J'aimerais bien vous entendre un peu là-dessus. Je rappelle le titre de votre livre, L'appel du royaume, paru aux éditions Arthège.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'appel du royaume, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec le docteur Adèle Galli, auteur d'un ouvrage du même nom, le docteur Adèle Galli, qui est médecin égyptien de confession copte et qui a bien du courage parce qu'il fait cette émission en français et en plus on ne se voit pas puisque je vous rappelle que vous êtes en duplex depuis les studios de Radio Notre-Dame. C'est la meilleure organisation qu'on a pu trouver à l'occasion de votre tournée en France. J'aimerais pour finir donc que vous continuiez de nous parler un petit peu de Sœur Emmanuel et de son héritage spirituel, de ce qui continue à vivre, on va dire, de Sœur Emmanuel dans votre cœur et à votre avis ce qu'elle a à nous dire. Avant ça, elle avait une expression que j'ai citée en introduction, Yalla. Elle le disait avec sa voix un peu perchée, hein, Yalla, qui veut dire en avance, sauf erreur de ma part. Dans votre livre, on sent combien vous l'aimez, Sœur Emmanuel, vous l'avez aimée. C'était une femme très charismatique et qui avait aussi un sacré tempérament, non, docteur Adèle Galli, rien ne lui résistait quelque part.
Oui, ça c'est vrai. Tout ce que vous avez raconté, c'est exactement vrai. Vraiment, Sœur Emmanuel est une personnalité extraordinaire et merveilleuse. Je ne sais pas comment raconter et comment...
Alors, est-ce que vous pouvez revenir dans ces cas-là sur ce que vous avez dit au début à propos de son héritage spirituel? Vous disiez que c'est une femme qui a tout donné aux autres. Et dans votre livre, vous utilisez une image, celle du parfum. Et d'une fois, on lui avait offert un parfum de grand prix. Racontez-nous cette histoire.
Oui, cette histoire est merveilleuse. C'était la fête des mamans et quelqu'un a donné à Sœur Emmanuel un gros flacon de parfum. Et elle était le matin à l'église. Elle était à la messe et à la communion. Et puis, elle est rentrée au Mokattam. Et elle a monté la colline à pied. Alors, en route, elle a rencontré plein de femmes. À chaque pas, elle trouve des femmes. Alors, directement, elle prend de ce parfum et elle met sur le visage et sur leurs mains. Enfin, avec joie, et les gens ont été très heureux, toutes les femmes, bien sûr, et elle dit « Bonne fête, maman, bonne fête à tout ». Imaginez, durant tout le chemin de la colline du Mokattam, depuis en bas jusqu'à qu'elle est arrivée jusqu'à son palais royal, c'est-à-dire jusqu'à chez elle, elle a rencontré des centaines de femmes. À chaque pas, elle trouve... Et vraiment, jusqu'à ce que ce flacon, il ne reste qu'un tout petit peu. Vraiment, cette scène était pour moi très merveilleuse. Et j'ai vu ça. Elle marche et elle rencontre à chaque quelques pas, elle trouve un groupe de femmes directement. C'est-à-dire, bonne fête. Et elle était souriante et tout le monde les femmes ont été souriantes et tout ça.
Alors vous faites merveilleux. Vous faites aussi un parallèle dans votre livre avec donc ce récit où cette fameuse Marie vient baigner les pieds de Jésus, donc d'un parfum de grand prix. Vous dites aussi dans votre livre donc à un moment Sœur Emmanuel s'est décidée à se consacrer aux plus pauvres des pauvres pour découvrir le bonheur avec eux. Elle vous a dit aussi souvent, c'est eux qui m'ont évangélisé. Qu'est-ce qu'elle vous partageait de ça, en fait, de ce qu'elle avait découvert grâce au chiffonnier du Caire?
C'est vrai parce que même moi, quand je pense, toujours je dis, les meilleurs jours de ma vie ont été parmi les chiffonniers. Ça, c'est vrai. Et vous découvrez avec les chiffonniers comment ils sont très solidaires, la solidarité entre eux. et plein de choses merveilleuses avec ces gens. Et vraiment, c'est vrai, ils sont des gens dignes. Parce que ce sont des gens qui travaillent très dur. Ils commencent leur travail à 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Et ils gagnent leur vie à travers leur travail. Ils ne sont pas des
feignants, comme on dit en France.
Oui, 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 c'est vrai. Alors vraiment, les chiffonniers sont... on peut apprendre plein de belles choses de ces gens, surtout qu'ils sont toujours heureux, accueillants, simples. C'est-à-dire, j'ai trouvé qu'on peut être parmi eux toujours heureux. On apprend plein de choses de ces gens, oui, c'est vrai.
Pour finir, j'aimerais que vous nous parliez donc un peu des chrétiens d'Occident, parce que donc, vous êtes venu souvent en France, c'est pas la première fois que vous venez en France et en Europe, entre autres parce que Sœur Emmanuelle vous a envoyé vous former. Voilà, elle avait de l'ambition, elle voyait le meilleur pour les chiffonniers. Certainement que vous êtes venu aussi avec Sœur Emmanuelle à de nombreuses reprises. Et vous, la situation du christianisme en Europe, et on imagine aussi en France, vous inquiète. Vous avez cette expression « nous regardons l'Europe avec un souci brûlant ». Pardon, excusez-moi. Les scandales moraux que les médias montent en épingle, semble-t-il, vous choquent. Et puis vous dites « les chrétiens ici semblent devenus des chrétiens administratifs ». J'ai noté quelques expressions. Vous parlez d'affaiblissement des disciples ou alors des chrétiens de papier qui ont le cœur refroidi. Et vous dites même qu'on devrait créer une association SOS Chrétiens d'Occident. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce sentiment que vous avez quand vous venez en France?
C'est-à-dire, tout ce que vous avez raconté, c'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens encore très merveilleux, pour dire la vérité. Et je suis heureux, par exemple, pour le moment, maintenant qu'il y a des gens qui donnent aussi de leur vie, de leur temps, comme cette association SOS Chrétiens d'Orient et tous les volontaires qui sont venus chez nous pour dire la vérité, ils ont été tous sans exception des lumières. Ils ont été des anges qui ont fait un travail merveilleux envers tous ces gens qui ont besoin, envers tous ces pauvres. Ils ont travaillé parmi les chiffonniers, avec pas seulement les chiffonniers, mais dans d'autres, pour les handicapés, pour les personnes âgées. Et tous sont des jeunes qui sont venus pour donner de leur vie, de leur temps, de leur...
Ça, c'est le verre à moitié plein, mais alors le verre à moitié vide, pourquoi est-ce que vous parlez de SOS Chrétiens d'Occident dans ces cas-là?
C'est-à-dire, toujours on entend ce qui se passe. C'est-à-dire, parfois, je sens qu'on a peur que petit à petit, on va perdre la foi. Ça, c'est ce que j'ai peur. Mais j'ai peur, par exemple, nous aussi, on a un devoir de prier pour... la France, pas seulement la France, toute l'Europe et le monde entier. Surtout, vous voyez dans plein de choses qui... On a besoin de prier beaucoup. Et en même temps, vraiment, comme exemple, SOS Chrétiens d'Orient, c'est un travail d'amour. L'amour, c'est... la chose la plus importante.
Ben, en tout cas...
Dieu est amour. Alors, ces gens qui viennent, surtout, pas seulement en Égypte, ils vont en Irak, et ils vont en Syrie, ils vont dans des endroits difficiles et terribles, et ça veut dire qu'ils sont encore très courageux pour sauver... et pour aider, et pour donner avec joie, même
Même dans la difficulté. Docteur oui. Adel Ghali, vous avez une expression merveilleux. On a compris que voilà, vous étiez délicat à la fin de cette émission en voulant surtout souligner donc, le travail de cette association, cette belle association SOS Chrétiens d'Orient qui vous a fait venir pour cette tournée en France pour présenter donc, votre livre. Je rappelle son titre, L'appel du royaume, paru aux éditions Artege sur les pas de Sœur Emmanuel, ma vie auprès des chiffonniers du Caire. Voilà, vous dites aussi dans votre livre que si une espèce de brouillard froid semble s'être abattu sur l'Europe, l'enthousiasme, on va dire, et que l'enthousiasme est devenu rare, et bien celui de Sœur Emmanuel, on l'entend encore avec cette énergie et son charisme et cette phrase extraordinaire, Yalla en avant. Merci docteur Adel Ghali d'être venu au micro de notre émission et merci à Radio Notre-Dame et bravo à vous en dépit de la distance et de la langue. Grand merci à la technique Christophe Aubry. Vous pouvez écouter ce soir cette émission à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.